teaching the youth about roots and culture, and tell them I see them to remember Jah. That's all I need when I am. Well, CKUT is a messenger, teaching the youth about roots and culture, and tell them I see them to remember Jah. That's all I heard in red again. Well, 90.3 FM. It's CKUT, the cultural radio station. Radio McGill. Blessed love. The messenger. Take it away.
Allô à toutes avec un Christ de gros E, à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
La très bienvenue à ce nouvel épisode de votre podcast féministe interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À tous les épisodes, on se garoche à la vitesse de l'éclair dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes nerd radicales de presque trentenaires, ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
Dans le fond, tout ou pantoute, c'est comme le moton de tape que tu colles sur le plancher quand tu joues dans une salle de spectacle trop chic puis que tu veux pas percer le plancher avec ton pic de violoncelle. Aujourd'hui, on parle de dating et de santé sexuelle et reproductive, mais sous un angle particulier. On va parler de handicap physique, d'inclusivité, de capacitisme et d'application de rencontres.
Pour en parler, j'ai rencontré Laurence Reynaud-Rioux, qui est chargée de projet pour Accès Plus, qui est un projet de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, sur les sexualités et les handicaps au Québec. Laurence s'identifie elle-même comme une femme en situation de handicap, puis elle s'intéresse particulièrement à la façon dont les personnes en situation de handicap négocient leur vie sexuelle et relationnelle, et notamment leur dating. Ici Alexandra Turgeon
et Laurie Perron.
Vous écoutez Tout ou Pantoute. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui et de vous présenter notre experte, on a eu le goût de faire une petite parenthèse. On s'est dit que ça pourrait être un bon moment pour adresser quelque chose qui nous tient vraiment à cœur depuis le début dans le podcast. Au début de chaque épisode, on dit un podcast aussi intersectionnel que possible à place de carrément intersectionnel. C'est parce qu'on a vu passer beaucoup de projets qui utilisaient un peu des buzzwords de féminisme, de diversité, d'inclusivité, puis qui semblent pas nécessairement faire particulièrement d'efforts pour vraiment être inclusif. Puis on travaille vraiment fort avec Tout ou Pantoute pour pas tomber dans ce piège-là, sans tomber non plus dans le piège de la tokenisation.
Nos cercles sociaux sont à l'intersection de plusieurs types d'oppression, mais pas de tous les types à la fois. C'est pas ce qu'on veut prétendre, je pense que c'est normal, mais on essaie fort d'ouvrir notre démarche puis notre projet à quiconque a quelque chose d'intéressant à y apporter. Alors voilà, si vous vous sentez dans l'ombre de notre intersectionnalité et que vous avez envie de nous le faire savoir ou de prendre la parole avec nous, on est vraiment plus couverte à l'idée. On veut pas vous tokeniser puis aller vous chercher pour parler de spécifiquement quelque chose qu'on sait même pas si vous avez envie d'en parler, mais on a de la place pour vous autres n'importe quand. Fait que si vous êtes dans l'ombre, faites-nous signe.
Ouais, puis c'est vraiment important pour nous. Pour continuer un peu sur ce sujet des privilèges puis des oppressions puis de l'intersectionnalité, on entend, je trouve, de plus en plus parler de la notion de privilège. Puis quand j'ai commencé à réfléchir à cette notion-là, j'ai compris qu'avec ma classe sociale, ma couleur de peau, le pays où j'habite, une des seules oppressions que je vis, en fait, c'est mon genre au quotidien. C'est le fait que je suis pas un homme. Puis je sais à quel point c'est rochant, juste l'oppression liée au genre dans mon quotidien, c'est rochant au point que je ressens la colère liée au sexisme systémique presque chaque jour de ma vie. J'ai de la misère à aimer ça regarder des films, je suis vraiment rochante pour choisir un film puis regarder des films. J'ai de la misère à lire des livres sans trouver qu'il y a du sexisme dedans. J'ai de la misère à marcher dans la rue sans me sentir agressée, à aller chez le médecin sans me sentir agressée par les solutions qu'on me propose. Puis je me dis que si moi je ressens ça, comment ça peut être pour des personnes d'autres classes sociales, des personnes non blanches, des personnes en situation de handicap, ça me fait juste vraiment capoter de réaliser ça. Puis c'est un peu de ça d'ailleurs que notre invité d'aujourd'hui va nous parler. Puis je trouve que son exemple est vraiment parlant parce que, comme j'ai dit dans l'intro, c'est elle-même une personne en situation de handicap. Fait qu'elle parle un peu de son quotidien, mais au-delà de ça, elle s'appuie sur beaucoup de la recherche. Puis elle parle entre autres juste de comment le monde est fait puis est géré pour un certain type de personnes, mettons les hommes blancs cis qui travaillent de 9 à 5. Puis qu'aussitôt que ton corps, ton cerveau ou ton mode de vie sont différents de la norme établie, mais c'est vraiment compliqué de juste se déplacer puis d'avoir les services dont on a besoin ou de dater, par exemple, ce dont on va parler plus en détail tantôt. Mais c'est vraiment des micro-agressions au quotidien que quand on vit pas ces oppressions-là, on peut même pas imaginer à quel point ça peut être intense puis vraiment partout dans notre quotidien, finalement.
C'est clair, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Alex, parce que moi, je me suis jamais identifiée comme étant hétéro, mais j'ai jamais vécu, mettons, l'oppression qui allait avec, parce que ça apparaît pas dans mon physique, puis j'ai des millions d'autres privilèges, pas mal les mêmes que ceux que tu viens de nommer. Puis il a fallu que je me rende chez un médecin pour une situation précise qui traitait d'homosexualité, puis là, je me rends compte que vraiment, ah, OK, mon Dieu, mais je suis même pas pris au sérieux, puis comme à chaque fois qu'une couche d'oppression s'ajoute, il y a moyen de la ressentir vraiment fortement. Puis quand c'est une couche d'oppression qui peut être visible ou être causée par quelque chose qui est visible, ça doit être vraiment hallucinant.
Oui, non, c'est capoté. Aussi, pour faire ma parenthèse habituelle de nerd, je voulais parler un peu du fait que dans l'entrevue que vous allez entendre, qu'on va vous présenter dans quelques minutes, Laurence, notre invitée, réfère beaucoup à de la recherche féministe sur les personnes en situation de handicap. Puis, ben, elle nomme aussi, elle réfère surtout à des recherches en anglais parce que ben, c'est un angle mort carrément dans la recherche féministe francophone, comme dans les mouvements féministes en général d'ailleurs, que de parler du vécu puis des spécificités liées aux personnes en situation de handicap. Les mouvements féministes sont loin d'être parfaits et parfaitement inclusifs. J'imagine que vous en entendez parler puis que vous vous en rendez compte aussi. Des fois, c'est carrément une exclusion planifiée et assumée, supportée par exemple par des préjugés racistes, etc. C'est vraiment loin d'être derrière nous. Mais des fois, puis souvent en fait, c'est un manque de considération qui est plus lié à un manque de connaissances puis de représentation. Par exemple, dans les mouvements féministes, moins il y a de femmes sourdes ou aveugles ou avec des problèmes de mobilité, ben moins on va penser à installer des rampes d'accès puis à fournir des interprètes pour que tout le monde puisse participer aux événements ou aux manifestations, etc. Donc, il y a un capacitisme ou un validisme, c'est-à-dire une discrimination ou un préjugé envers les personnes en situation de handicap qui est à l'œuvre dans notre société de façon des fois explicite puis parfois ben, implicite. Et parfois même involontaire. Mais bref, il faut faire attention. Puis au niveau de la recherche académique, plus précisément, c'est pas non plus... la recherche académique, c'est vraiment pas un milieu qui est particulièrement inclusif, qui est particulièrement ouvert aux différentes façons d'exister puis de penser, même si ça devrait l'être, parce que c'est de là que tout part, là, finalement. Fait qu'il me semble que ça devrait être ouvert à tout ce qui se passe pour vrai, mais c'est pas le cas. Pour faire un état des lieux très rapide, des recherches... sur le sujet dont on parle aujourd'hui, je disais que la recherche sur le sujet est surtout anglophone, mais elle est aussi beaucoup américaine des États-Unis. Pour faire un overview historique un peu dans la foulée des mouvements sociaux des années 60-70, donc des mouvements pour les droits civiques et des mouvements féministes, on a aussi vu naître des mouvements sociaux pour les personnes en situation de handicap qui ont amené au Americans with Disabilities Act en 1990, donc on s'entend plusieurs décennies plus tard. Mais c'est des mouvements sociaux qui ont existé donc dans la deuxième moitié des années 1900. Et parallèlement, dans le milieu académique, bon, on a vu apparaître et prendre de plus en plus de place ce qu'on appelle les « disabilities studies ». Évidemment, les personnes en situation de handicap ont été des objets d'études, entre guillemets, dans les disciplines académiques avant ça, comme des disciplines comme la médecine, par exemple, pour parler des personnes en situation de handicap depuis longtemps. Mais ce qui marque le tournant dont je parle, c'est le fait qu'on arrête de considérer ces personnes-là comme des objets de l'extérieur, puis qu'on les fasse entrer concrètement, qu'on fasse entrer leur subjectivité puis leur vécu dans la recherche, ce qui est vraiment, vraiment récent. Puis ben, ces recherches-là, les disability studies dont je parlais, qui sont beaucoup dans les sciences sociales, ça fait réfléchir au handicap d'une façon différente, avec un regard différent qui est justement plus situé puis plus ancré. Qu'est-ce que ça peut amener comme réflexion? Quelques exemples. Juste voir le concept de handicap sous un angle différent. C'est quoi être normal? C'est quoi être handicapé? Qui décide à partir de quel moment une personne est en situation de handicap? Je vous donne un indice. Les hommes blancs. Est-ce que c'est vrai qu'il y a tellement de personnes en situation de handicap dans notre société ou plutôt est-ce qu'on vit pas dans un monde particulièrement hostile et non inclusif? C'est toutes des questions qu'on peut se poser quand on adopte un regard différent. D'ailleurs, c'est pas toutes les personnes qu'on définit de l'extérieur comme étant en situation de handicap qui le revendiquent elles-mêmes comme faisant partie de leur identité. Laurence va en parler un peu plus tantôt, mais c'est pas parce qu'on considère de l'extérieur une personne comme handicapée qu'elle se définit nécessairement comme étant en situation de handicap. Donc, c'est beaucoup plus complexe et nuancé qu'on peut le penser. D'autres auteurs et autrices nous amènent aussi à réfléchir au fait que, comme la plupart des catégories identitaires, mettons l'ethnicité, la classe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, bien, la situation de handicap, ce n'est pas un bloc monolithique. Évidemment, chaque handicap entraîne des conséquences et des ajustements complètement différents. Là. On ne peut pas comparer le vécu d'une personne aveugle avec le vécu d'une personne, par exemple, paraplégique ou juste un peu de difficulté avec sa mobilité. Et deuxièmement, ce n'est pas une catégorie fixe. Ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui peut naître capable et, suite à un accident, par exemple, se retrouver en situation de handicap. On peut éventuellement aussi sortir d'une situation de handicap, par exemple, grâce à la médecine ou dépendamment de la situation de handicap en question. Tu sais, ce n'est pas une catégorie qui est fixe, comme par exemple l'ethnicité ou l'identité de genre, bien, qui est aussi fluide par ailleurs. Certains auteurs, dont Michael Birubé, dont je vais insérer un lien dans les notes de l'épisode, vont jusqu'à dire que finalement, tout le monde finit par devenir plus ou moins invalide à un moment donné dans sa vie, ne serait-ce qu'à cause de l'âge. On devient de moins en moins valide, c'est un fait. Puis, tu sais, la société, le monde extérieur est de moins en moins accessible pour les personnes qui vieillissent. Peut-être qu'une réponse intelligente de notre société, ça serait d'en prendre compte au lieu d'ostraciser puis de mettre à part les gens aussitôt qui tombent dans la catégorie de moins valide ou de moins mobile. Donc voilà, ça fait partie des nombreuses questions qui intéressent les chercheuses et les chercheurs de Disabilities Studies. Je vais mettre des références dans les notes de l'épisode si vous avez le goût d'aller plus loin et de lire sur le sujet. Laurence Reynaud-Rioux, notre invitée, en cite pas mal aussi et ses références sont toutes disponibles dans les notes de l'épisode. Je vais laisser l'experte parler pour le reste, mais je nous encourage toutes, avec un gros E, à être plus alertes à nos préjugés capacitistes au quotidien. Sans plus attendre, je pense qu'on peut présenter notre invitée d'aujourd'hui. Laurence Reynaud-Rioux, c'est la personne que j'ai rencontrée dans cet épisode pour discuter de sexualité et de handicap. Elle connaît le sujet non seulement parce qu'elle travaille dans le domaine, mais elle fait aussi beaucoup de recherches sur le sujet parce que ça l'intéresse énormément et aussi elle le vit elle-même au quotidien puisqu'elle est atteinte de paralysie cérébrale depuis sa naissance. On a parlé ensemble de plusieurs choses, de santé sexuelle et reproductive chez les personnes en situation de handicap, de dating, d'applications de rencontres et de comment les personnes en situation de handicap décident de les utiliser. Et finalement, de qu'est-ce que ça change au quotidien, dans son cas précis à elle, de son expérience personnelle, d'être atteinte de paralysie cérébrale. Laurence est vraiment dynamique, enthousiaste et intelligente. Son sujet l'a fait triper. J'ai eu vraiment du fun à parler avec elle. Je vous présente tout de suite notre discussion. Laurence Reynaud-Rioux, tu es chargée de projet pour AXEX+, qui est un projet de la Fédération du Québec pour le planning des naissances sur les sexualités et les handicaps au Québec. Tu es allée à l'université en sociologie et en études féministes, en concentration en études féministes en fait, puis tu as beaucoup constaté l'absence presque complète en fait des réalités des femmes en situation de handicap dans les sciences sociales. Tu t'identifies toi-même positivement en tant que femme en situation de handicap et c'est entre autres pour ça que tu es atteinte d'une légère paralysie cérébrale depuis ta naissance. Tu m'as dit que c'est entre autres pour ça que tu t'intéresses au sujet et tu es donc super bien placée pour en parler. Merci d'être venue parler avec nous aujourd'hui, Laurence.
Merci de l'invitation, ça fait plaisir.
Je me disais, pour commencer, tu pourrais peut-être me présenter rapidement le projet AXX+, ce que tu y fais et ce que c'est, pour qu'on puisse bien saisir ton expertise.
Oui, donc ce projet-là, il a été mis en place pour la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Pour le reste de l'entrevue, je vais appeler ça la FQPN pour que ça soit juste plus fluide. Donc, à la FQPN, ça a été mis en place en 2015. Puis c'est vraiment dans une volonté pour l'organisme de s'ancrer davantage dans la justice reproductive. Ça, c'est un mouvement qui est parti des militantes afro-américaines en 1994, puis c'est en fait en réponse au mouvement pro-choix dans le dossier de l'avortement, où on parlait beaucoup de faire un choix, nos corps, nos choix, mais pour l'avortement, il y a plusieurs femmes de communautés plus marginalisées qui peuvent pas faire ce choix-là d'avorter ou de ne pas avorter, puis notamment, on peut parler des femmes racisées, des femmes qui... vivent dans un milieu encore plus précaire financièrement, puis des femmes en situation de handicap qui ont un lourd historique de stérilisation forcée. Ben fait oui. que c'est en partant de ça que la FQPN a voulu représenter ces communautés-là qui sont souvent oubliées dans le... pas oubliées, mais je dirais, mettons, ils sont moins visibilisées dans le mouvement des femmes. Fait que le projet AXX+ vient répondre à cette espèce de d'invisibilisation-là. Puis, moi, ça me fait plaisir de porter ce projet-là qui s'adresse aux femmes, personnes trans et non-binaires en situation de handicap, mais aussi sourdes et neurodiverses.
Puis c'est beaucoup de l'information que vous faites, entre autres sur le blog puis sur la page Facebook, c'est ça?
Oui, c'est ça. Mais dans le fond aussi, c'est que le projet au départ était vraiment plutôt axé sur les sexualités et le handicap. Puis là, finalement, on a un déplacement plus vers la santé sexuelle et reproductive et la situation de handicap, la sourdité et la neurodiversité, parce qu'il y a une différence, c'est... entre faire de la défense de droit en santé sexuelle. Tu sais, la sexualité rentre dans la santé sexuelle, mais il y a juste un déplacement un peu de la mission qui se fait plutôt en santé sexuelle et reproductive. On veut porter des dossiers, on veut porter des enjeux plutôt que juste parler de sexualité. C'est déjà un gros dossier, là, mais bref, voilà. Fait que...
Vous avez élargi la palette un petit peu.
Oui, exactement.
Tu t'intéresses autant personnellement que professionnellement, puis même au niveau académique quand tu étais à l'université, au sujet de la santé sexuelle et reproductive, donc pour les personnes en situation de handicap. Je me demandais si tu pouvais nous aiguiller sur quelques enjeux en particulier qui sont particulièrement importants pour toi, puis qui sont probablement méconnus parce que tu m'as dit que c'est pas des réalités qui sont beaucoup prises en compte, puis pour toi, les femmes en situation de handicap en santé sexuelle et reproductive sont encore marginalisées. Je pense, entre autres, tu m'as parlé hors micro de l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive qui est difficile puis qui n'est pas égalitaire pour les personnes en situation de handicap.
Mm-hmm. Ben, je peux... c'est une bataille qui n'a pas fini d'être menée. Mais, tu sais, on peut parler autant dans l'accès physique aux services. On peut parler... ça sera sans surprise de mentionner qu'il y a plusieurs ressources qui ne sont pas adaptées pour recevoir des personnes qui ont besoin d'une aide à la mobilité. On peut penser que il n'y a pas de lève-personne quand une personne a besoin d'être soulevée pour être mise sur une table d'examen, Mais également, on peut penser pas de rampe d'accès, pas d'ascenseur, pas de table. Si on pense aux soins en santé sexuelle et reproductive, pas de table gynécologique adaptée. Il commence à en avoir de plus en plus. Mais c'est vraiment pas parfait. Puis également aussi, quand on parlait de... on a parlé ensemble hors micro, tu sais, de violences systémiques, ça passe aussi dans les attitudes par rapport aux personnes qui fréquentent les services. Mm-hmm. Ça serait faux de penser, en fait, que les professionnels de la santé n'ont pas de capacitisme intériorisé, tu sais.
Ben oui.
Moi-même, j'en ai et je le déconstruis en étant moi-même une personne en situation de handicap. Fait que j'imagine pas les personnes qui ont jamais... vécu avec un handicap ou qui n'ont jamais vécu avec une proche d'une personne qui a un handicap. Donc, puis c'est quelque chose qu'on a toujours besoin de déconstruire. Donc oui, il y en a dans le système de santé. Puis même,
C'est clair. Ça peut se traduire comment, concrètement, ces biais capacitistes-là?
Ça va plus loin aussi que juste le système de santé. C'est en général sur les personnes en situation de handicap. Puis moi, c'est sûr que... bon, je vais mettre mon expertise puis entendre les guillemets dans ma voix parce que j'ai encore de la misère à me considérer comme experte. Mais mon expertise, c'est sûr qu'elle est plus précise sur les personnes qui ont un handicap physique parce que les personnes sourdes et les personnes neurodiverses rencontrent différents, mettons, différents défis par rapport à l'accessibilité. Fait que là, quand je vais en parler, c'est vraiment pour les personnes qui utilisent, par exemple, une aide à la mobilité. Puis pour faire aussi une... Parce que le champ du handicap, c'est super large. Puis on inclut là-dedans... Moi, j'ai inclus, tu sais, la surdité, la neurodiversité, handicap physique, puis aussi handicap psychique. On peut penser à la DI, mais là, c'est super large. Fait que moi, je vais prendre mes exemples sur quelqu'un qui a un handicap physique. Puis, au niveau du capacitiste, c'est que, par exemple, aux soins en santé sexuelle et reproductive, ben les personnes en situation de handicap, les femmes, reçoivent pas nécessairement l'éducation à la sexualité de base. Pour plein de raisons, soit les professionnels qui fréquentent, ben sont pas à l'aise d'en parler avec les jeunes quand la personne est jeune. Après ça, les parents sont pas, comme tout parent, est peut-être pas outillé pour le faire non plus. Mais l'école aussi, dépendamment si on fréquente une école qui est régulière ou spécialisée, avec plus d'outils pour répondre aux besoins des enfants en situation de handicap, ben les professionnels puis les profs ont peut-être pas nécessairement le temps ni les ressources pour donner l'éducation à la sexualité qui est adéquate. Puis dans la tête de certains professionnels aussi, c'est de penser que ben quand c'est plus des enfants puis que ça devient, quand ils deviennent des adultes, ben que ces adultes-là, puisqu'ils sont dans situation de handicap, ne ressentent pas soit le besoin d'avoir une sexualité, on les voit comme des êtres asexuels. Puis même si ça fait longtemps qu'on répète que ce stigma-là, il est associé au... ça fait longtemps qu'on répète ce stigma-là, mais il est encore aujourd'hui associé aux personnes en situation de handicap. Puis on pourra... Tu sais, je peux encore en parler tellement longtemps, mais c'est une des raisons pourquoi aussi on n'est pas capable de... dans nos schémas à nous, tu sais, de s'imaginer dans une relation amoureuse, intime, avec une personne en situation de handicap, tu sais, ça peut être un des facteurs, en fait, de penser que cette personne-là, à la base, est asexuelle.
Ouais. Puis tu me disais que souvent, les personnes en situation de handicap sont infantilisées aussi, même, j'imagine, quand ils émettent qu'ils ont des besoins, probablement, qui ne sont pas nécessairement entendus.
Exactement. Même à l'âge adulte aussi, là, c'est la même chose. On peut... Il y a des femmes qui appellent pour prendre des rendez-vous, par exemple, par rapport à la santé sexuelle. On peut penser à des tests de la mammographie, puis tout ça, même un examen gynécologique, un pap test, c'est pas facile à passer quand t'as pas de table adaptée. Donc, pour des femmes, ça peut être vraiment difficile juste de tenir des services de base, mais c'est encore plus dur quand tu es confrontée à des attitudes qui sont infantilisantes, dévalorisantes, ou qu'on te fait pas confiance, finalement, parce que là, il y a d'autres attitudes aussi qui vont ruiner un peu l'expérience des femmes en situation de handicap dans le système de santé quand elles veulent obtenir des soins en santé sexuelle, parce que souvent on leur fait pas confiance, on pense pas qu'elles sont capables de prendre les bonnes décisions pour elles-mêmes, parce que les professionnels ont toujours pris les décisions pour les personnes en situation de handicap, puis ça tend, tu sais, ça, avec un mouvement qui leur donne la parole, ben ça peut tendre à changer, mais encore aujourd'hui, ben les professionnels se posent en autorité, tu sais, puis pas juste avec elles, avec pas mal tout le monde. Donc moi, je suis, tu sais, pour des femmes, ça peut être des fois difficile d'avoir accès à de l'information critique. Puis après ça, quand t'as pas d'information critique, ben ça devient difficile de faire des décisions pour toi-même puis d'avoir tous les choix devant toi, tu sais.
C'est clair, c'est ça, les décisions sont prises pour elles, puis on considère pas qu'ils peuvent avoir un mot à dire par rapport à ça.
Exact.
Sur un autre angle, tu m'as dit que tu t'intéressais beaucoup à tout ce qui était dating en situation de handicap. Ah oui, c'est mon dada. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est tellement pas quelque chose à laquelle on pense. Entre autres, les applications de dating, on est tous presque passés par là, puis c'est quelque chose quand même comme expérience, là, on s'entend qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport au physique, etc., qui peuvent se faire aller là, mais pour une personne en situation de handicap, ça doit être à un autre niveau. Je ne sais pas si tu peux m'en parler un peu.
Oh oui, my God, j'aime s'en parler. Fait que, c'est vraiment mon dada de parler de ça. Puis c'est parti en fait de... Ben, plus j'avançais dans mes études, je ne sais pas combien de temps je peux en parler, mais au pire, tu m'arrêteras pour vrai, parce que je peux en parler pendant vraiment longtemps. Mais c'est ça, c'est parti en fait de mon parcours universitaire. Puis ben, c'est sûr que aussi, l'intérêt pour ce sujet-là part de mon propre vécu à moi. Puis en fait, est parti de... Mais ça fait longtemps que je parle de mes histoires de date, j'adore ça, comme si je peux parler de ça tout le temps, je serais bien heureuse. Quand je suis allée sur une date avec un gars avec qui je parlais depuis quelques jours, puis moi, j'ai mon handicap, j'ai la chance, entre guillemets, de pas nécessairement pouvoir le dire. En fait, il se remarque pas tellement. Il affecte, tu sais, grosso modo, pour les gens qui sont pas familières avec la paralysie cérébrale, c'est que ça peut avoir différents degrés, mais la mienne est légère, puis elle affecte majoritairement ma démarche, mon équilibre. Fait que quand tu le sais, tu le remarques, mais pour des gens qui font pas nécessairement attention à ça, ils le verront peut-être jamais, tu sais. Fait que moi, j'ai le privilège de aller sur une date, puis de pouvoir pas nécessairement dévoiler mon handicap, puis ça change pas vraiment, ça changera pas le déroulement de la date, parce que majoritairement, on la passe assise. Donc, c'est sûr que je le dis pas nécessairement. Puis, quand il est arrivé, je me suis rendu compte que lui aussi avait un handicap qui affectait sa démarche, puis je suis moi-même restée surprise en faisant comme « Wow! » OK, deux minutes, là, j'avais jamais de ma vie pensé à penser au fait que je pourrais dater un gars qui a aussi un handicap, tu sais, puis que ça, moi, ça me dérangeait vraiment pas qu'il me l'ait... Tu sais, il aurait pu me le dire ou ne pas le dire, pour moi, ça aurait rien changé, parce que je suis dans la même position, tu sais, je décide de pas le dire. Ça m'a tellement fait travailler, parce que j'ai dit, OK, fille, t'as aussi terrorisé le capacitisme, puis ça, va falloir que tu le déconstruises au niveau de tes relations, tu sais, ça se peut que l'autre personne se présente avec un handicap ou plusieurs. Fait que ça a été comme, ouais, ça a été comme un gros morceau à... J'ai réfléchi là-dessus, puis je me disais comme, ah, mais comment les gens se présentent, dans le fond, tu sais, les personnes en situation de handicap, puis surtout les femmes, fait comment qu'elles se présentent, comment elles choisissent de dévoiler ou non le handicap, c'est ça qui m'intéressait.
Est-ce que, j'imagine que tu as remarqué que, comme toi puis cette personne-là, la plupart des gens en parlent pas nécessairement avant de rencontrer la personne en vrai?
Ben, ça... En fait, ce que moi j'ai pas fait, aussi j'ai pas ce que je vais nommer comme résultat, c'est des résultats qui viennent de recherches qui ont été faites avant moi. Surtout des résultats. En fait, c'est que j'ai trouvé que des recherches anglophones qui traitaient un peu de ce sujet-là, mais c'était pas centré non plus sur les femmes. Fait que c'est des comportements qui ont mélangé comme hommes-femmes, il n'y a pas de différence. Mais majoritairement, en fait, les gens ont différentes attitudes. Faut savoir aussi que moi, je me concentrais dans mes travaux sur les applications plus mainstream. On peut penser à Tinder, Bumble, OkCupid, parce qu'il y a des applications de rencontres puis des sites de rencontres pour les personnes en situation de handicap. Donc là, la dynamique est pas pareille si on est sur l'une ou l'autre des applications. Sur une application, par exemple, qui est dédiée ou en tout cas qui vise principalement les personnes en situation de handicap, ben c'est sûr que on le sait en s'inscrivant sur ces applications-là que la population va avoir un handicap. Donc, le tabou autour de ça, le stigma, il tombe automatiquement. Il y en a d'autres parce qu'il y a toutes sortes de monde sur ces applications-là. Mais au moins, le stigma de l'handicap tombe, ça ne sera pas une surprise. Par contre, il y a différentes personnes qui se disent « Ben moi, mon handicap, d'une telle façon, puis il demande quand même beaucoup de travail. Donc, je ne me vois pas en couple avec une autre personne en situation de handicap. » Ça peut être aussi une réflexion. Puis pour les gens, ils se disent « Ben les applications de rencontres mainstream, ben, ça me permet de rencontrer plus de monde avec des handicaps ou non, visibles ou invisibles. » C'est ça, je pense que dépendamment, si tu as besoin, par exemple, d'une aide à la mobilité comme une canne, si tu as une déficience visuelle ou même un fauteuil, ben, tu peux pas vraiment le cacher. T'sais, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y en a qui décident de « bon, ben moi, je le mets direct dans mes photos, comme ça, c'est dit. » Puis les gens, ils feront une propre sélection si ça les dérange ou non. Puis il y en a d'autres, ben ils mettent pas, si t'as des photos qu'ils montrent pas nécessairement, ben il y en a qui décident seulement de l'inscrire dans leur biographie. Puis en fait, pourquoi aussi je m'intéressais aux applications plus mainstream, c'est parce que la plupart d'entre elles se servent des photos comme premier critère de sélection. La sélection des photos, c'est pas anodin, en fait, ce qu'on présente comme photo puis ce qu'on présente comme description, tu sais.
Puis, j'imagine l'ordre dans lequel les personnes mettent leurs photos aussi.
Oui, ça compte. Oui, vraiment, parce que, en fait, hommes et femmes en fait, tu le sais, les recherches le montrent pas mal, mais aussi les personnes qui font l'expérience des applications de rencontres font ce constat-là que, ben on présente ce qu'on pense que l'autre va aimer, tu sais. Ouais. Fait que ce qu'on pense qu'il va pogner. Fait que c'est sûr, les personnes en situation de handicap se le font tellement montrer avec peu de représentations positives qu'on l'a tout intériorisé à un certain moment que notre handicap, c'est pas quelque chose qui nous fait nécessairement gagner, tu sais, aux yeux des autres. Fait qu'on va peut-être miser, il y en a qui vont miser sur autre chose. Il y en a pour ça aussi, il y en a qui vont pas le dire. Et avec raison, tu sais, pour se donner une chance, entre guillemets. Moi, c'est une des raisons, en fait, pourquoi je le mentionne pas. C'est vraiment parce que je me dis, ben les gens sont pas vraiment au courant de ce que c'est, qu'est-ce que ça comporte, puis il y en a qui peuvent juste faire de la discrimination sur la base de ça. on veut mettre ce qui plaît le plus, puis ce qui rentre plus dans les genres stéréotypés. Tu sais, pour les hommes, par exemple, leurs photos, ben, en tout cas, pour les... ce qu'on va beaucoup voir, si mettons c'est des hommes actifs, ben, ils vont aller à la pêche, ils vont aller à la montagne, tu sais, ils vont avoir des photos de ça pour montrer qu'ils sont actifs. Pour les femmes aussi, c'est se montrer, ben, social, bien présenté. Donc ça, c'est sûr qu'on peut gagner des points quand on a des photos comme ça, mais il y a encore un stigma aussi associé aux personnes en situation de handicap, que c'est des personnes comme inactives. Donc, il y a tout l'aspect aussi que quand on veut se montrer sur notre meilleur jour, ben il y a encore, même si on est dans notre fauteuil, puis on peut être une personne super active, ben il y a quand même ce stigma-là qui, malgré nous, ben va toucher les personnes en situation de handicap.
Wow! C'est comme une obligation de ressenti de prouver que c'est pas parce que je suis une personne en situation de handicap que je vaux pas la peine que tu apprennes à me connaître. C'est un peu ça, la réflexion.
Exactement. Puis il y en a d'autres aussi qui peuvent, je le voyais dans d'autres études, qui prennent leur handicap, mais ils font de quoi de empowering avec ça, là, dans le sens où ils vont l'écrire comme « ben moi, je suis un militant handicapacitiste, puis ça fait partie de ma personnalité, puis... Je trouve ça vraiment badass d'être entouré d'autres militants, militantes. Fait que, tu sais, il y en a qui peuvent tourner ça aussi d'une autre façon. Fait que vraiment, il n'y a pas une façon de le présenter. Puis c'est ça que je trouvais vraiment intéressant avec la recherche autour de ça. C'est qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Puis les gens, ils vont avec ça avec quoi ils sont plus à l'aise.
C'est vraiment super intéressant. C'est, ouais, j'imagine. Puis j'ai l'impression, j'entends que c'est un peu ça la réflexion derrière toi, ton choix de ne pas le mentionner sur les applications de rencontre. De montrer que tu te définis pas seulement par ton handicap, puis que même si une partie de toi se définit par ton handicap, ben c'est moins, je m'en vais dire, c'est moins handicapant, mais c'est pas obligé d'être central dans la relation que tu vas avoir avec la personne que tu peux
rencontrer. Non, c'est ça, puis je pense que avec mon vécu, avec mes échanges avec mes proches qui sont aussi en situation de handicap, puis avec les recherches que j'ai lues, les gens ne veulent pas être seulement ramenés à ça, puis je pense que ça peut être vraiment rapide avec les jugements sur les applications de juste faire comme « oh non, ça me tente pas ». Puis je pense que pour venir au point où les gens en voient pas beaucoup de personnes en situation de handicap autant dans les médias que dans d'autres représentations, fait que c'est dur de s'imaginer qu'on n'a jamais de représentation positive, que ça peut être quelque chose de normal. T'sais, j'aime pas ça utiliser ce terme-là, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une difficulté à pouvoir, dans nos schèmes amoureux, intimes, de s'imaginer dans une relation avec une personne en situation de handicap, puis ça part du fait qu'on n'a jamais de représentation positive, tu sais. Mais puis aussi que dans les programmes d'éducation à la sexualité qui reviennent là, depuis 2018 dans nos écoles, les professionnels n'ont pas tellement de place pour en parler non plus, mais si on se mettait à en parler davantage, puis à dire aux plus jeunes, là, quand ils commencent leur relation amoureuse, mais ça se peut qu'à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un qui a un handicap, puis qu'est-ce que ça demande, parce que chaque personne a des besoins différents, mais c'est normal, puis comme cette personne-là, ben, elle n'est pas asexuelle, elle a vraiment beaucoup de valeur, elle est vraiment intéressante, puis tu sais, en parler positivement.
Oui, ah, c'est tellement intéressant. Pour conclure, je me disais que, ben, t'en as parlé un petit peu au travers de ce que tu viens de parler, mais je me demandais la façon dont ton handicap que tu qualifies de léger puis qui peut paraître invisible, si ça l'a influencé la façon dont tu peux vivre ta vie au quotidien.
Ben moi certainement, c'est drôle parce que c'est depuis en fait que je me concentre plus sur justement c'est quoi la place du handicap dans ma vie, parce que comme je le disais, ça a été depuis récemment, peut-être 2 ans, que je m'identifie comme positivement dans mon identité en tant que femme en situation de handicap, même si le handicap a toujours fait partie de ma vie. Mais avant, ça a été tellement comme quelque chose que je mettais de côté, puis tu sais, j'ai toujours grandi aussi avec des enfants qui n'avaient pas d'handicap, fait que pour moi, je faisais bien plus partie de la gang si je n'avais pas cet handicap-là, tu sais, puis si je ne mettais pas l'accent là-dessus. Par exemple, depuis que je suis arrivée à Montréal, la plupart du catcalling, des agressions verbales que j'ai vécues, ben c'est en lien avec l'handicap. C'est quelqu'un qui va m'arrêter pour me poser des questions, c'est quelqu'un qui va me passer un commentaire juste parce que je passe à côté. Je suis capable de me déplacer quand même assez facilement, mais j'ai pas beaucoup d'équilibre, puis ma démarche, c'est mes pieds rentrent vers l'intérieur, fait que j'ai plus de chances de tomber, fait que je fais plus attention, tu sais. Fait que c'est, pour moi, comme il est toujours là, cet handicap-là. Fait que ce qui change dans ma vie, c'est qu'il faut que J'évalue en fait mes déplacements. On pourrait tellement faire un autre épisode de podcast sur l'adaptation que ça demande. Mais tu sais, c'est que j'utilise toujours les mêmes chemins parce que je les connais. Puis je sais que j'ai pas besoin de m'en faire avec les. Tu sais, évaluer mon environnement. Est-ce qu'il y a une craque de trottoir? Est-ce que c'est dénivelé? Est-ce que je vais être capable de me rendre? Est-ce qu'il y a une rampe pour descendre? Parce que moi, c'est comme descendre des escaliers, c'est un défi. Là aussi, les montées, ça va. Mais descendre avec quand tu as moins d'équilibre, là, c'est un défi. Fait que je me dis, tu sais, je connais les endroits que je fréquente, puis je sais qu'ils sont accessibles pour moi. Fait que puis c'est toujours de la préparation puis de l'évaluation. Fait que on pourrait tellement parler longtemps.
C'est une grosse charge mentale.
Ouais, hein, ouais, vraiment.
Ah, c'est intéressant. Merci beaucoup. Je me demandais, juste pour finir rapidement, si tu vois, tu sais, je sais que tu milites là-dedans, tu travailles là-dedans en plus, puis ça t'intéresse beaucoup. Est-ce que tu vois une amélioration ou peut-être au contraire qu'il y a plus de préjugés puis d'oppression qu'auparavant? Est-ce que tu vois comme une reconnaissance des oppressions puis de la réalité des personnes en situation de handicap?
Oui, moi je vois une amélioration, puis je sais pas, en tout cas du côté anglophone, ils sont hot là-dessus, parce que, tu sais, mettons, si je pense juste, moi c'est sûr que je m'intéresse en plus à la culture populaire, puis je trouve que la culture populaire peut quand même porter des messages, est porteuse de messages, puis si elle peut en porter des nice, tant mieux, mais je me dis, tu sais, du côté anglophone, là, on sort des séries, comme dans Sex Education, il y avait un homme en situation de handicap, on a sorti, tu sais, je pense à ce qui est produit sur Netflix, mais aussi ailleurs, la série Special qui est sur un homme qui a une légère paralysie cérébrale, puis c'était comme la première fois que je me voyais à l'écran d'une manière comme où le personnage n'était pas juste son handicap, mais il y avait aussi une personnalité. C'était vraiment cool pour ça, mais oui, il y a du progrès qui se fait, puis les revendications des femmes en situation d'handicap sont de plus en plus reconnues. Il y a encore du chemin à faire pour que ça soit parfait, c'est sûr, mais je trouve qu'on avance dans la bonne direction, puis tu sais, j'encourage aussi ben tout groupe, mais aussi les groupes de femmes, aller, tu sais, reach out, essayer de rejoindre ces femmes-là, puis d'essayer de construire des projets avec elles, parce que c'est, tu sais, même pour les femmes qui veulent s'impliquer dans des groupes de femmes ou ailleurs, ben juste au niveau de l'accessibilité physique, des fois, c'est impossible, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un bout où les femmes qui n'ont pas d'handicap qui affecte leur mobilité, bien, c'est faire un bout d'aller rejoindre les femmes en situation de handicap, puis de questionner leur vécu. Je pense qu'elles ont beaucoup à dire, fait que ça serait super pertinent de les entendre.
Oui, c'est clairement un angle mort du féminisme, les personnes en situation de handicap. Merci infiniment, Laurence, pour cette discussion-là. C'était vraiment super intéressant.
Ah, ça fait plaisir, c'était tellement le fun.
Bravo, 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 c'est full bon. Bravo Laurence, bravo Alex.
Oui, c'était tellement le fun de rencontrer Laurence. Ça a vraiment mis du soleil dans ma journée. Elle est tellement dynamique et intéressante. J'ai vraiment trouvé ça le fun.
Oh, malade.
Je sais, Laurie, que toi, au quotidien, c'est de l'art que tu fais. Puis je me demandais si l'entrevue avec Laurence, ça te fait réfléchir un peu à la place que les personnes en situation de handicap prennent ou prennent pas dans ton milieu.
Ouais, full, vraiment beaucoup. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, puis je vais essayer de pas trop mettre mon expérience personnelle seulement de l'avant, parce que je vis pas moi-même avec un handicap, j'ai pas envie de répandre des fausses informations sur le sujet. Je vais quand même commencer par vous parler d'une petite expérience banale qui m'a fait réaliser bien des affaires, mais je vais filer ensuite pour vous donner des suggestions d'artistes vraiment impressionnantes qui vivent et créent avec un handicap.
Wow, nice!
C'est ça, il y a deux étés, j'étais enceinte de 6 mois, je faisais de la tournée avec mon autre enfant de 9 mois, puis un de mes bands, moi si je fais de la musique dans la vie. Juste avant de me rendre à un show à Sainte-Rose-du-Nord, je me suis fait une solide entorse à la cheville, puis j'étais plus capable de marcher. On s'entend que des béquilles avec un bébé d'un bras, ça marche pas fort fort. Fait que la seule option accessible et simple pour moi, c'était de faire le reste de la tournée en fauteuil roulant avec Aube sur mes genoux.
Oh my God!
Honnêtement, c'est sûr que j'ai eu un glimpse d'injustice que le simple fait d'être en fauteuil amène, mais je me prétends pas connaître vraiment ce que vivent les personnes en fauteuil roulant au quotidien, après une expérience de genre 4-5 jours.
Mm-hmm.
Sauf que ça a été assez long pour remarquer quand même certaines affaires, dont le principe même d'une scène qui est problématique pour une personne qui a de la difficulté avec sa mobilité.
Ouais.
Même si les salles de spectacle sont souvent accessibles à l'entrée, ont des rampes, ont de l'espace souvent entre les rangées pour permettre la circulation, l'espace scénique, lui, il est vraiment pas pensé pour faire de la place et accueillir facilement des artistes à mobilité réduite. Puis je pense qu'une immense partie des arts vivants se passe sur la scène.
Ben ouais.
J'ai vraiment envie d'inviter les gestionnaires de salles qui nous écoutent, s'il y en a. Là, je suis en train de me prendre pour une star. celles et ceux qui nous écoutent, à réfléchir à ça pendant le confinement. Ce serait cool qu'au retour de la crise, tout le monde puisse prendre la parole sur vos scènes, juste de même.
Comment t'as fait pour monter sa scène? Tu t'es fait hisser?
Ben moi, on s'entend que j'avais juste une entorse. Ouais. J'ai pu me soutenir sur le garde branlant du petit escalier qui menait à la scène. Dans la première scène, parce qu'il y avait un garde, mais des fois, il n'y a même pas de garde, c'est juste deux petites marches noires qui mènent à une scène noire que tu ne vois pas dans le noir.
Oh, il fait noir, puis il y a plein de fils, ben oui.
Fait que j'ai juste pris de l'avance, je me suis assise sur le bord de la scène, puis après, j'ai fait le show, tu sais. Mais pour moi, c'était facile. Cette situation handicapante était très temporaire et banale, tu sais, mais pour quelqu'un qui le vit au quotidien, puis qui a des empêchements plus larges que ça, c'est vraiment difficile d'accès.
Mais ça prend, c'est ça, il faut être dedans pour le réaliser, puis c'est ça qui est fucké, parce que, comme Laurence en a parlé, mais comme moins il y a de personnes, tu sais, ben, dans le milieu des arts, mais dans n'importe quel milieu, moins il y a de personnes en situation de handicap, moins on va penser juste à comment pouvoir les inclure, là, parce qu'on le vit pas, fait que c'est sûr qu'on y pense pas, là.
Exactement, on se dit peut-être même, tu sais, il y a une personne de temps en temps, c'est exceptionnel, alors on va dealer avec l'exception quand elle va arriver, mais au contraire, si la possibilité était là, ben peut-être qu'on entendrait plus ces voix.
Ben oui, c'est clair. Ouais. Ah, c'est vraiment un pensée si bien, merci.
Plaisir. Parlant de prise de parole, d'ailleurs, des personnes avec des handicaps, en guise de segment artistique, comme Laurence disait qu'on voit peu de gens en situation de handicap dans les médias, puis qu'elle a fucking raison, je me souviens de personne via les médias que j'ai constaté qu'il y avait un handicap visible, à part peut-être Steph dans Glow
Up. Oh my god, t'as écouté Glow Up?
Oui, c'est mon bon. Je me prends de maquillage. Fin de fini.
Oui, c'est vrai, à marcher avec une canne.
Ouais. Mais c'est mon seul souvenir. Mm. Puis j'en ai écouté des émissions toute ma vie, comme probablement vous toutes et tous, tu sais. Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas. Fait que je me suis dit, bref, que notre position d'apprenti média se devait de faire un effort. Fait que j'ai envie de vous diriger vers des personnes ultra pertinentes qui, elles, savent de quoi elles parlent pour vrai à l'intersection entre art et handicap. Dans ton entrevue, Alex, Laurence parlait de la fausse association qui est faite entre les personnes en situation de handicap et l'inactivité physique. J'ai envie de vous lancer tout de suite en premier lieu sur la piste d'une femme qui prouve clairement la fausseté de ce lien-là. Puis c'est France Geoffroy. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent parce qu'elle est assez connue quand même au Québec. C'est une figure de proue de la danse intégrée ici au Québec. C'est la fondatrice de Corpuscule Danse, la première compagnie professionnelle de création en danse intégrée. La danse intégrée, c'est de la danse mixte entre personnes avec et sans handicap. Sa contribution à l'histoire de la danse au Québec, c'est indéniable. Elle a gagné des prix pour ça. Elle est vraiment reconnue. Je vous conseille ardemment d'aller consulter les liens que je vais vous laisser sur nos médias sociaux. Puis dans la description de l'épisode pour vous informer puis voir des extraits de numéros de danse intégrée de Corpuscule Danse, parce que c'est vraiment cool.
Malade.
Je suis partie de France Geoffroy pour faire mes recherches, mais j'ai fini par tomber sur le travail de Véro Leduc, qui est doctorante en communication de l'UdeM, professeure au département de communication à l'UQAM et militante féministe queer intersectionnelle, crip et sourde.
Elle est prof dans mon département en communication à l'UQAM. Ouais. J'ai des amis qui travaillent sous sa direction. Elle a l'air vraiment cool.
Ben, en tout cas, moi, ce que j'ai vu sur elle, c'est vraiment impressionnant. Peut-être qu'on l'interviewera un jour. Je lance ça dans l'univers. Ce serait vraiment intéressant.
Mais hein.
C'est vraiment intéressant parce que vous disiez plus tôt, Laurence puis toi, qu'il y a un vide au niveau des études francophones sur les personnes en situation de handicap ou de sourdité, mais les recherches de Véro Leduc sont rédigées en français. Alors, elle contribue vraiment à combler ce vide-là.
Malade.
Elle-même, elle est sourde, donc son projet, C'est tombé dans l'oreille d'une sourde, prend la forme d'un essai doctoral et d'une bande dessinée vidéo. Parce que comme la LSQ, qui est le langage signé québécois, c'est une langue signée et donc visuelle et non typographiée, comme les langues qui s'écrivent, il fallait en faire une version vidéo pour pouvoir l'utiliser dans une BD. Format artistique complètement nouveau, pour moi en tout cas, je n'avais jamais vu ça. Puis ça n'arrive pas si souvent que ça dans notre monde où presque tout a déjà été fait.
Oui, c'est vrai. On dirait que je ne comprends pas comment ça peut se faire. Faudrait que j'aille le regarder.
Ben, je te conseille à toi en tout premier lieu et à tout le monde après de suivre les liens que je vais vous mettre. Parce que c'est une BD qui se développe en 10 épisodes, chacun attitré à un personnage, soit sourd ou un membre de la famille immédiate de l'autrice. En tout cas, je vous suggère vraiment d'aller écouter ça parce que ça vaut la peine. Puis c'est vraiment un format nouveau. Puis en plus, ça traite de la sourdité d'une façon qui est destinée aux personnes sourdes ou malentendantes et à nous. Mais c'est vraiment bien pour comme plonger dans l'univers au lieu de juste aller voir quelque chose puis enlever le son. Ça n'a rien à voir. Là. C'est
ben oui, ben oui.
Pour ça. Fait que cool. Vraiment, allez-y. Puis pour finir en vrac, je vous conseille aussi d'aller voir ce que font les productions des pieds et des mains. Joe, Jack et John, les Muses, toutes d'ailleurs fondées ou co-fondées par des artistes féminines. C'est un topo vraiment grossier, là. Il y a bien plus d'artistes que ça qui méritent d'être cités. Mais je pense qu'il faudra un autre épisode pour aller plus loin. En tout cas, on flirte avec l'idée, à suivre.
On lance plein d'affaires dans l'univers.
On lance toutes sortes de choses ce soir. L'univers est rempli de nos idées innombrables. Fait que je vous laisse les liens dans la description de l'épisode. Vous avez de quoi pour vous divertir tout le reste du confinement, sans aucun doute. Parce que si on, mettons un genre de on flou regroupant les personnes dotées des exacts mêmes privilèges que nous autres, en tout cas, bref, si on disait en début de podcast qu'on n'avait pas le monopole des oppressions sur le dos, ben on n'a crissement pas le monopole non plus de la création puis du beau. Il y a vraiment beaucoup d'affaires qui se font.
Tellement vrai, tellement vrai. Oh my God, merci. Je vais aller suivre tous ces liens avec vraiment beaucoup d'intérêt. Ah! Puis, vous autres, les amis auditeuristes, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait réfléchir, la discussion qu'on a eue avec Laurence, puis ce dont on a parlé dans cet épisode-ci? Est-ce que ça vous fait réfléchir au fait que peut-être que vous avez des préjugés capacitistes dont vous étiez plus ou moins aperçus avant? Ou est-ce que vous vivez avec un handicap vous-même, puis vous vous reconnaissez dans ce dont Laurence a parlé, ou au contraire, vous vivez une expérience complètement différente de la sienne? On a vraiment le goût de vous entendre puis vous lire. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou Pantoute, puis on est sur Instagram puis sur Facebook, puis ça nous fait énormément plaisir de vous lire à chaque fois. Puis si vous avez aimé notre épisode, ben dites-le à vos amis.
Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui c'est qu'on oublie? Qui c'est qu'on n'oublie pas? Qu'est-ce qu'on oublie? Bref, n'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On est plein de bonne volonté, puis on sait qu'on n'est pas parfaite. Si vous avez une passion, d'ailleurs, un talent, une expertise que vous aimeriez partager avec le monde entier, parce que oui, on a accès au monde entier, nous, avec les interwebs, écrivez-nous, on veut vous connaître, puis on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en nombre. On veut sortir de nos cercles, puis on adore quand vous nous écrivez, puis quand vous slidez dans nos DM, on se sent comme des stars.
Vraiment. Rêve. D'ailleurs, en parlant de stars, si vous avez envie et les moyens de participer financièrement à Tout ou Pantoute, ben on a instauré un système de dons pour participer au projet du podcast. Il y a un lien sur notre site web puis dans les notes de l'épisode qui dit pour participer financièrement à l'aventure Tout ou Pantoute, ça peut vraiment nous aider à rémunérer nos collaboratrices et à nous donner les moyens de faire un projet encore meilleur.
C'est ce qui conclut cet épisode de Tout ou Pantoute. Un milliard de merci à toutes avec un gros E pour leur participation.
Merci Laurie Perron pour la co-animation et les belles discussions.
Ça fait plaisir. Merci Alexandra Turgeon de partager tes réflexions, tes idées puis ton projet de podcast avec moi.
Merci beaucoup Laurence Reynaud-Rioux pour ton temps, ta générosité puis ton travail. Ça a vraiment été un plaisir de parler avec toi. Toutes les études sur lesquelles se base Laurence dans notre discussion sont dans les notes de l'épisode et le lien pour aller voir ce que fait Access Plus aussi. Merci à Laurie Perron et à François Forcier pour la musique. Merci à Audrey Laperrière pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Puis merci à vous d'avoir joué avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tout ou Pantoute.
Bye!
To avoid spreading COVID-19. It's easy. I'll wear a mask in crowded places. If I have symptoms, I'll self-isolate and do a rapid test. If I test positive, I'll stay home for at least 5 days. And for the next 5 days, I won't visit anyone who's at risk. I'll avoid social events like festivals and gatherings. And I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the gouvernement du Québec.
Oh. Welcome to Amandla Radio, friends and comrades. This is a summer rebroadcast of Amandla Radio, and I'm Doug Miller, coming to you from CKUT 90.3 FM here in Montreal via the radio waves, computer live streaming, and other methods too complicated for me to understand. Here at Amandla, we have always admired the Cuba that came into existence and has been shaped by